Prophète Habacuc chapitre 2 verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Amen. Peut-on considérer qu'Habacuc est au sommet d'une tour? Alors là, c'est un problème. Il y a pas mal de contestations parmi les commentaires bibliques. Certains parlent uniquement d'une position spirituelle. Enfin, position spirituelle peut-être, mais le brave prophète, il avait aussi un corps, donc il devait être quelque part. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, c'était pas incompatible donc avec sa position physique quand même. Le mot traduit par tour, c'est Matsor, comprend la pensée d'un lieu assiégé, d'un endroit retranché. Le rabbinat a traduit « Je veux me tenir à mon poste d'observation, je veux me placer sur le fort du guetteur pour regarder au loin. » Ce qui est important, c'est que le prophète, il était fidèle, il était à son poste. Il était à son poste. Dans le monde du travail, vous savez que l'abandon de poste peut justifier un licenciement. Dans l'armée, abandon de poste, en temps de paix, c'est déjà... prison. C'est la prison. Et puis, en temps de guerre, alors c'est encore plus grave. Être à son poste, en ce qui nous concerne, c'est veiller, prier déjà comme Jésus l'a ordonné, être fidèle là où il nous a placés, au milieu d'un monde, parce qu'on n'est pas parti du monde, mais on est au milieu d'un monde et de sa convoitise, de son idolâtrie, de son péché. Et nous avons besoin d'être à notre poste, d'être fidèles. Le fidèle est une sentinelle pour les perdus. Il voit venir le jugement de loin, il le voit, et il annonce la grâce de Dieu à tous ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, le fidèle est une sentinelle aussi pour ses frères et sœurs. Nous sommes appelés les gardiens des uns des autres. On n'a pas l'esprit de Caïn qui disait « Suis-je le gardien de mon frère ?» Bien sûr que non. Bon, il ne s'agit pas de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, on est bien d'accord. Mais Jésus a dit, par exemple, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. C'est pas facile hein, d'avertir, d'être une sentinelle quelque part. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Il faut être conduit par l'esprit. Et si la sentinelle ne veille pas, elle n'avertit pas, elle est en danger, elle met en danger, bien sûr, tous ceux qui l'entourent. Jésus revient. Mais aujourd'hui, qui entend ses pas sur les nuées du ciel? Qui? Nous sommes appelés à nous encourager, nous exhorter les uns les autres, et à nous prévenir, à nous avertir les uns les autres. Alors vous connaissez bien sûr ce texte d'Ézéchiel 33:6, hein, si la sentinelle voit venir l'épée, ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est vrai que l'activité de sentinelle dans le corps de Christ, elle est motivée par l'amour, on est bien d'accord. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'obligation. Normalement, il n'y a pas de corvée. Il n'y a pas de devoir religieux. Tout est affaire de cœur. Alors, j'ai des souvenirs militaires, on en parlait un peu tout à l'heure. Bien sûr, il fallait monter la garde. Et deux fois 2 heures. Hein. 2 heures plus 4 heures de repos, puis 2 heures de garde. Quelle corvée! Quelle corvée! La nuit, c'est quelque chose hein, que la solitude la solitude de la sentinelle. Il ne fallait pas s'endormir. Et nous avons besoin de ne pas nous endormir, je crois que Jésus vient. Puissions-nous être conscients. Il est indispensable pour la sentinelle d'avoir une bonne vue, de voir de loin, d'avoir une oreille exercée. Vous savez, d'avoir du discernement dans la nuit. Il y a toutes sortes de bruits, hein. Je ne sais pas si certains ont connu choses de ce genre, mais monter la garde la nuit, on entend plein de bruits, hein. Il faut discerner. Moi, je me rappelle, en Algérie, il y avait une voie ferrée, là, qui était chauffée à blanc pendant la journée. Et dans la nuit, comme il faisait froid, ça faisait des claquements comme des coups de fusil. Ben, il s'agissait d'avoir du discernement, hein, parce qu'il ne s'agissait pas de réveiller tous les copains. Les gens étaient contents à cause de la voie ferrée qui se rétractait. Mais il arrive que le peuple de Dieu soit sourd aux avertissements du Seigneur. C'est dommage, Israël l'était. C'est Ésaïe 42 qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme le messager que j'envoie. Au début du livre d'Habacuc, on remarque que le prophète se pose plein de questions. Il voit le péché, il voit la violence, il voit les querelles, il voit la discorde, mais il n'en prend pas son parti. Il n'en prend pas son parti. C'est écrit, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Etc. Il se pose toutes sortes de questions. Jusqu'à quand? Ça indique une situation qui n'est pas nouvelle. Et c'est vrai quand même, on est tous pareils, hein, quand Dieu ne secourt pas rapidement, la foi est éprouvée. On se pose toutes sortes de questions. La suite du texte nous montre qu'il tombe dans un abîme de perplexité parce que Dieu lui dit qu'il va reprendre son peuple par le moyen d'un peuple, les Chaldéens, un peuple inique. Alors, nous avons lu « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour ». Il y a une autre attitude de recueillement, d'élévation. Il va rechercher la communion avec Dieu. Alors, être à son poste, se tenir sur la tour, ça nécessite un équipement. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Bon, j'ai des souvenirs militaires, encore une fois. Certains postes, certains miradors étaient montés sur des toits. Et il y avait un gros projecteur, une grosse lumière. On l'allumait de temps en temps, la nuit, on parcourait un petit peu la nature environnante, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'approchait. Et puis il y avait aussi une mitrailleuse, la 12-7 dans certains postes. Par la grâce de Dieu, je m'en suis jamais servi, merci Seigneur. Mais c'était impressionnant, hein. C'était quelque chose d'assez important. Vous savez, nous avons besoin d'utiliser la lumière, la parole de Dieu. Elle nous éclaire, elle éclaire la nuit de ce monde. Elle éclaire la nuit de ce monde. Nous avons besoin de l'ouvrir régulièrement. Comme ce phare qu'on ouvrait, là, qui parcourait la nuit. Vous savez, Pierre et Jean ont relâché, les disciples élevèrent la voix tous ensemble et ils ont dit quelque chose qui est intéressant. Seigneur, c'est toi qui as dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu pour appui, de l'utiliser comme une arme offensive contre l'ennemi de nos âmes, mais nous avons besoin aussi de l'utiliser dans nos prières. Notre foi a besoin de cette hardiesse, de s'appuyer, de saisir à la parole. Seigneur, c'est toi qui as dit. Habacuc, il dit, je me tenais sur la tour, je veillais. Il ne baisse pas les bras. Il est embarrassé, il est assiégé au niveau de ses pensées. Il est affligé, attristé. Mais il reste à sa place, il reste à son poste, il veille. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attrister aujourd'hui. Dans ce monde, c'est vrai. Dans nos familles. Dans le peuple de Dieu, quelquefois aussi. Il peut y avoir des sujets qui nous attristent. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tout cela ne doit pas nous amener au découragement, ne va pas nous amener à abandonner notre poste, mais à nous rapprocher du Seigneur qui est fidèle, à être vigilants comme Jésus nous l'a enseigné. Il nous faut garder ce que nous avons reçu. Amen. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Garder ce que nous avons reçu. Même nous souvenir des moments de visitation, de bénédiction, pas pour être nostalgique, hein, mais pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier encore, pour ce qu'il nous a montré, pour ce qu'il nous a donné dans le passé, pour rendre grâce. Alors je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et c'est vrai que pour veiller, nous avons besoin de persévérance, nous avons besoin de patience, nous avons besoin de constance. Ce sont des vertus chrétiennes, ça. Alors il y a un mot d'ordre, c'est prier, puis rester dans la foi. Prier, puis rester dans la foi. Étant attentif à la réponse de Dieu. Je m'interroge quelquefois sur ce sujet. Quelquefois on prie, puis bon, on repart à ses obligations. À ses... On n'est pas attentif à la réponse de Dieu. On n'attend pas une réponse quelquefois même, c'est dommage. Et pourtant la foi l'attend en silence. La bénédiction du Seigneur l'a demandé. Elle l'attend, elle est attentive. Moi, je sais pas, ça m'est arrivé de m'interroger parce que... en se disant, mais... Est-ce qu'on ne met pas le vieux manteau du doute à l'entrée, quelquefois? On l'accroche, porte-manteau, puis en sortant, on le reprend. Alors, on a vécu un moment de prière, mais est-ce que ce n'est pas un moment de rêverie ou c'est un moment de réalité? On avait prié une fois pour quelqu'un, et la personne qui priait était très positive dans sa prière. Pour les progrès d'un frère. Ah, j'ai été stupéfait. C'est que la réunion à peine finie, elle a dit, il ne changera pas. Terrible. Eh oui, non, non, mais il faut faire attention quand même. C'est vrai que nos moments de prière, ça fait des moments de rêverie. C'est réel, c'est sérieux. C'est la foi vivante qui nous permet de rester. Positif, persévérant, patient, constant. Le mot persévérer, vous savez qu'il a dans sa structure la pensée d'être sévère envers soi-même. La persévérance n'existe pas sans rire. Bon, je ne veux pas être trop long. Hein. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, si elle tarde, attends-la. Bon, il serait qu'il est tellement important de ne pas laisser tomber à terre une seule parole du Seigneur. Et toute cette parole que nous pouvons lire, que nous pouvons méditer, qui nous est enseignée, c'est vrai qu'on se pose la question quand même, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que il n'y a pas beaucoup de choses qui nous passent par-dessus la tête? Nous avons besoin de la serrer dans notre cœur. Il faut qu'elle soit gravée dans nos cœurs. Amen, cette parole, bonne parole de Dieu. Alors peut-être que, je sais pas, quelques-uns, Dieu vous a parlé, ben quelques mois, quelques années, peut-être quelques jours, je sais pas. Est-ce qu'il vous a fait une promesse particulière? Ben, on remarque quand même quelquefois des enfants de Dieu, de chers enfants de Dieu, qui avaient reçu des promesses particulières du Seigneur, puis avec le temps. Ben, le temps n'est pas notre allié, hein, bien souvent. Ça s'est effacé de leur mémoire. La promesse n'est plus devant leurs yeux, elle n'est plus dans leur cœur. Quel dommage. Quel dommage. Nous avons besoin de nous souvenir des promesses du Seigneur, de les serrer dans nos cœurs. Elle s'accomplira certainement. C'est pas une traduction mot à mot du texte hébreu, mais la répétition du verbe s'accomplir, ça correspond, ça exprime bien la pensée du texte. Alors gardons ce que nous avons reçu comme un trésor. Comme un trésor, sachant que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Puis Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen.
Amen.
Amen.